Bonjour à chacun. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous ce matin pour la deuxième fois, parce que je suis déjà venu il y a une année et demie, toujours sur invitation de Benjamin. Et puis, voilà, en quelques mots peut-être, je suis toujours dans la même phase. Quand je suis venu il y a une année et demie, je débutais mon master à l'Université de Lausanne en gestion du sport et des loisirs. Actuellement, je suis en train de le terminer. Il me reste un travail de mémoire à faire. Et puis, ça me demande passablement de discipline que je n'ai pas forcément. Et voilà, donc c'est un gros travail. En parallèle à ça, on s'est mariés, Camille et moi, cet été, le 14 juillet, officiellement le 12, à Lausanne. Et puis, c'est depuis ce moment-là qu'on habite à Cossonay, qui est un petit village. On dit que c'est Cossonay-Ville, mais au fond, il n'y a que 3800 habitants, donc c'est un peu un village. Par rapport à Bienne, en tout cas, c'est beaucoup plus petit. C'est entre Lausanne et Yverdon, pour ceux qui ne situeraient pas. Et encore en parallèle à ça, moi, j'aime beaucoup le sport. Cette formation que je suis, elle est là à cause de ma passion pour le sport. Des études que j'ai débutées d'ailleurs après avoir fait une école biblique à Emmaüs pendant 3 ans, et puis qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Et ce sport, je le pratique au travers d'un club de foot, quoi de plus basique. Je pense que 85% des sportifs en Suisse pratiquent du foot, c'est un chiffre, je n'en sais rien, hein, mais voilà, c'est basique. Et quand on fait cette formation, je vous assure qu'on voit des gens qui font des sports vraiment... bizarre et différent, mais c'est juste magnifique parce qu'il y a une telle diversité qu'on en apprend tous les jours. Et du coup, ça m'a permis de développer cette passion, pas juste pour le foot, mais pour tous les sports qui existent, parce que tous ces sports requièrent un apprentissage difficile, long, pour maîtriser certaines choses. Si vous faites du sport, vous le savez certainement, et puis tout le monde le sait que de toute façon, l'apprentissage, ça prend du temps. Et puis, c'est, quand on arrive à maîtriser quelque chose, que ce soit un emploi, une profession, que ce soit un aspect dans notre vie de famille, que ce soit un aspect de notre caractère, quand on l'a maîtrisé, quand on a appris quelque chose, on peut en être satisfait. Parce que c'est long, parce que c'est dur, parce que ça prend du temps. Et c'est une bonne chose d'en être reconnaissant. Et je suis de nature assez intense, assez... radical comme ça. C'est lié aussi au fait que j'ai 27 ans et puis certainement qu'avec le temps, j'espère en tout cas m'adoucir un petit peu et puis peut-être gagner un peu en sagesse tout en gardant un petit peu de fougue. Et je vous dis ça parce que je ne voudrais pas vous heurter au travers de ce que je dis. Je ne voudrais pas que par mon manque d'expérience, par ma jeunesse, j'affirme des choses qui ne sont pas forcément vraies. Alors voilà, je viens vraiment là dans le but de vous encourager, qu'on vive quelque chose ensemble, qu'on puisse s'approcher de Dieu ensemble et puis en apprendre un peu plus sur lui, parce que c'est ça l'essentiel. Et loin de moi l'idée de venir juger, de venir critiquer, parce qu'on est tous pécheurs à niveau égal et on a tous été sauvés à niveau égal. Alors voilà, que ça puisse être le fondement de nos pensées, moi pendant que je vous dis des choses et puis vous pendant que vous écoutez. Que ça puisse vraiment demeurer en nous. Je ne sais pas si vous êtes au courant du titre du message de ce matin. Je pourrais avoir volontiers le... Merci beaucoup. Je ne suis pas au centre de ma vie. J'aurais pu mettre Dieu au centre de ma vie, mais je l'ai tellement entendu que j'avais envie de changer un petit peu d'aspect, de perspective, et puis de centrer ça un peu sur nous. C'est assez ironique parce qu'on n'est pas au centre de nos vies et pourtant j'axe ça sur notre propre personne. Je vais y revenir plus tard. Donc voilà, je ne suis pas au centre de ma vie. Ça paraît bizarre parce que tout ce qu'on fait, à quelque part, on en est le centre. On grandit, subit des frustrations, on essaye de... faire en sorte que nos envies, nos désirs soient assouvis. Un enfant, il va pleurer jusqu'à faire craquer les parents. Et puis des fois, les parents, ils arrivent à tenir. Puis des fois, ils n'arrivent pas. Et puis plus tard, eh ben on va le communiquer autrement. On va essayer de mettre les choses en place différemment pour arriver à ce qu'on veut. Et il y a de bonnes choses là-dedans, parce que ça nous permet d'être convaincus, ça nous permet d'avoir un objectif, ça nous permet de savoir où on va au niveau de notre formation, au niveau de notre recherche de l'âme sœur, au niveau de notre connaissance de Dieu, au niveau de la découverte du sens de la vie. C'est bon de réfléchir à ces choses-là. Sauf que, pour moi, il y a des tendances, il y a cette nature humaine qui vient sans arrêt semer le trouble dans ses désirs, dans ses envies. Et là où il devrait y avoir de la pureté, de la sainteté, de l'objectivité, eh ben, il y a de l'égoïsme, il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a de l'orgueil. Pas toujours, évidemment, parce que c'est un beau mélange. Et tout le défi consiste à discerner par le Saint-Esprit et puis de ne pas perdre le fil rouge, le fil de notre vie. Et dans cette idée-là, un texte sur lequel je me suis attardé ces derniers temps, c'est Philippiens 1, 20 à 26. Le contexte est le suivant, c'est Paul qui écrit à l'église de Philippe, et lui, pendant ce temps-là, il est en prison, à Rome. Pourtant, il écrit une lettre à une église qu'il a fondée, donc elle a une place particulière dans son cœur, et il les encourage. Il aimerait les rassurer quant à son état. Et puis au verset 20, il commence comme ça. « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche, volontiers la prochaine slide, cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Une des explications rationnelles, humaines, qu'on peut donner à un speech comme ça, c'est que il est en prison, il ne sait plus trop ce qu'il dit. Il a envie d'encourager parce que lui, il se sent dans une situation incontrôlable et puis négative. Puis on l'a tous fait, je crois, ça, une fois ou l'autre dans notre vie. Quand on ne va pas bien, on dit aux autres, « Mais non, je vais bien, t'inquiète pas pour moi. » Pour rassurer, parce qu'on n'a pas envie de trop s'attarder sur nous-mêmes, parce qu'on n'a pas envie que les autres s'inquiètent, c'est vrai, c'est juste, c'est noble comme sentiment, de ne pas vouloir charger les autres de quelque chose qu'on ne veut pas leur infliger. C'est ça ce qui anime Paul là ? Moi je ne pense pas. Je pense que cet homme, avec tout ce qu'on sait de ses lettres et de sa vie, il a été un tel outil dans la main de Dieu, que pour moi, ce n'est pas possible que ce soit juste un message d'encouragement auquel il ne croit pas, parce que lui, il est en prison et parce qu'il ne veut surtout pas que les autres s'inquiètent pour lui. Ce n'est pas un message d'espérance qu'il essaye de leur donner alors que lui, il n'y croit pas. Non, moi, je suis fermement convaincu qu'il sait exactement ce qu'il dit et pourquoi il le dit. Parce que plus loin dans le chapitre 4, il dira que la paix de Dieu surpasse tout. N'oubliez pas, il est toujours en prison. Il affirme que la paix de Dieu surpasse toute chose, toute circonstance, tout aspect de sa vie. Et il dit qu'il a appris à se satisfaire de la pauvreté comme de la richesse, peu importe les circonstances. Il affirme qu'il est pleinement satisfait. Pas dans la crainte. c'est pas un dernier élan de révolte ou de je ne sais pas quel terme mettre derrière pour essayer d'encourager. Non, 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 il en est convaincu et il est en train de le vivre en prison à Rome, dans l'impossibilité de pouvoir librement annoncer l'évangile, dans un cachot où il doit faire sacrément humide. Et puis ceux de la louange, ils savent de quoi ils parlent, parce qu'en venant ici ce matin, il paraît qu'ils avaient sacrément froid. Il paraît que vous avez des problèmes de chauffage. Ben, j'imagine que dans cette prison, ça ne devait pas être glorieux non plus. Hein. Dans le noir, enfermé. Quelle espérance permet d'affirmer des choses comme ça quand on est enfermé depuis tellement de temps? Combien de temps moi je tiendrais? Combien de temps nous on tiendrait à affirmer des choses comme ça avant de juste dire ok, ben, ça ne sert à rien. On a essayé, c'était sympa, c'était une belle aventure, mais là ça ne marche plus, ça ne va plus. Moi, le verset le plus frappant dans ce passage, c'est le verset 21, qui dit, où il dit « En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. » Je suis prêt à accepter beaucoup de choses, à laisser Dieu prendre la place dans beaucoup d'aspects. Mais là, moi, il me choque un peu. Quoi ? Mourir, c'est un gain. Donc tout ce que je suis en train de vivre là, en gros, c'est une perte par rapport à, par rapport à ma mort. Mais ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas concevable. Pour nous, la mort, ça représente la fin. Ce n'est pas un gain. Ce n'est pas un plus. La vie, elle est terminée. D'accord, oui, on a la vie éternelle. Mais qui ne s'est pas surpris une fois dans sa vie à se dire, ben, si Dieu il pouvait me laisser vivre, aller jusqu'au mariage, jusqu'à ce que je puisse voir ce que ça fait d'être marié, ou bien jusqu'à ce que je puisse, je ne sais pas moi, avoir une voiture, avoir le permis, ou bien jusqu'à ce que je puisse voir mes enfants s'épanouir et grandir. S'il te plaît, Seigneur, viens, reviens pas avant. Paul, là, il est en train de dire, ben voilà, tous ces désirs qu'on a, c'est une perte par rapport à Christ et la mort et cette vie éternelle dans laquelle on va entrer après. Moi, je crois intimement que le meilleur moyen pour avancer et pour affronter la vie, c'est d'affronter la réalité. La réalité, c'est que moi, je ne suis pas dans cette position-là. C'est que je ne peux pas dire que la mort représente un gain. Je tiens trop à ma vie. Et ça, pour moi, c'est le point de départ pour aller vers le mieux. C'est le point de départ pour réellement changer les choses dans ma vie et puis tendre à ce que Paul annonce ici. Un livre que j'ai lu il y a pas mal d'années qui a influencé le fait que je vais commencer une école biblique il y a bientôt 10 ans maintenant, c'est un livre que Rick Warren a écrit, un pasteur californien, qui a écrit un livre qui s'appelle « Une vie motivée par l'essentiel » et puis qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Ça ne veut rien dire, mais pour l'avoir lu, moi je trouve que c'est un livre exceptionnel. Parce qu'il va droit au but, c'est clair, c'est précis, bien sûr il y a des failles, mais en fait ça montre quel est le sens de la vie. Ça donne des choses concrètes sur lesquelles construire pour avancer. Et la première phrase du livre... Les premières phrases du livre, c'est celle-là. « Tout ne tourne pas autour de vous. » Et bim. « Votre vie a un sens qui dépasse de loin votre épanouissement personnel, votre paix intérieure ou même votre bonheur. Elle a un sens qui dépasse aussi votre famille, votre travail et même vos rêves et vos projets les plus fous. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette terre, vous devez commencer avec Dieu. Vous êtes né par lui. » Et pour lui. J'aime pas trop la traduction de cette première phrase. Tout ne tourne pas autour de vous. Ça implique qu'il y a quand même des choses qui tournent autour de nous. Enfin, c'est une manière de le comprendre. Moi, je le comprends comme ça. Je préfère dire, bah, comme le titre de ce message, vous n'êtes pas le centre de votre vie. Vous n'êtes pas l'enjeu de votre vie. Je ne suis pas le centre de ma vie. Il ne s'agit pas de moi. C'est là où j'aimerais en venir aujourd'hui. Paul, dans des circonstances que je crois personne n'a vécues ici, en tout cas moi pas, a pu continuer à affirmer sans doute que ce qui comptait, c'était le plan de Dieu. Que si Dieu jugeait bon de laisser sur terre, alors même qu'il avait envie de partir, eh ben, ce serait une bonne chose. Et ce serait pour la gloire de Dieu. Est-ce que... comment moi je me positionne par rapport à ça? Comment je fais? Oui, bien sûr. Moi, je suis prêt à le dire tous les jours que Dieu, que je ne suis pas le centre de ma vie, pardon. Mais concrètement, dans les aspects tout pratiques de la vie, comment je me situe par rapport à ça? Comment je réagis quand je me rends compte qu'on n'aura pas assez d'argent pour payer certaines factures qui arrivent à échéance? Comment je gère ça quand mon conjoint, ma conjointe ne semble pas me reconnaître à ma juste valeur? Comment je réagis quand tous les gens, une bonne partie des gens autour de moi m'accusent faussement de certaines choses? Comment je réagis quand un des éléments qui me tient le plus à cœur dans l'Église est mis de côté? Comment je réagis quand une chose de ma vie auquel je tiens énormément disparaît? Moi, les réactions qui s'imposent à moi, là, c'est le stress, c'est la colère, c'est la peur, c'est l'anxiété, et j'en passe. On est humain, oui. C'est OK de ressentir ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et je crois que l'enjeu, c'est justement le centre de nos vies. Et je n'aimerais pas aborder l'aspect de la légitimité d'un ressenti de stress, de crainte. Je ne suis pas en train de dire que non, ce n'est pas légitime, qu'on ne devrait jamais avoir peur, qu'on ne devrait jamais être anxieux, qu'on ne devrait jamais douter, qu'on devrait toujours mourir à soi-même. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce n'est pas cet aspect-là que j'aimerais aborder aussi, parce qu'il est aussi très, très important. Mais si je fais ça, ben, on en a pour, j'imagine, une journée ou deux. Ou une vie, je ne sais pas, parce que c'est tellement, tellement vaste. Ce que j'aimerais aborder, c'est cet aspect du centre de nos vies. Et le premier point, pour aller dans ce sens-là, pour laisser Dieu être ce centre, pour moi, c'est le fait de cultiver la mort à soi-même. Pardon. Et pour ça, un texte sur lequel je me suis penché, c'est celui de Marc 10, qui est l'histoire du jeune homme riche. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Est-ce que Jésus exigeait vraiment que cet homme vende tous ses biens jusqu'à ne plus rien posséder, ne plus rien avoir? Est-ce que c'est ça qu'il demandait littéralement pour qu'ensuite il puisse devenir un disciple de Jésus? Moi, je ne crois pas. Cette phrase où Jésus dit, où c'est dit que Jésus le regarde et l'aime, moi, je crois que cette phrase-là lui permet vraiment de sonder toute la profondeur de cet homme et de voir son cœur. Et il est plein d'amour pour lui. Et c'est plein d'amour qu'il dit à cet homme, tu dois renoncer à tes biens. Pas parce que c'est mauvais d'être riche ou c'est mauvais de posséder quelque chose, mais parce que ces richesses-là qu'il avait, ces biens qu'il avait, étaient pour lui plus importants que toute autre chose dans sa vie. Son cœur avait, sur le trône de son cœur, il y a ses biens, ses richesses. Et c'est ça, selon ce que je comprends de ce passage, que cet homme n'arrivait pas à abandonner. Et c'est ça que Jésus demande. J'ai besoin d'être le centre de ta vie. Il ne peut pas y avoir d'obstacle. La vie éternelle, c'est de m'avoir au centre. C'est OK d'être riche. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut que moi, je sois au-dessus. Il faut que tu sois prêt à perdre tous tes biens matériels pour me suivre. Et nous aussi, on réagit comme ça, hein, des fois. Peut-être même souvent. Ces réactions de stress quand on n'a pas assez d'argent. La crainte qu'on éprouve quand quelqu'un ne nous comprend pas ou quand notre avis n'est pas entendu. Ce qui vient être ébranlé là, c'est ce pilier central dans nos cœurs de « je veux être aimé, je veux avoir de la valeur ». Et c'est normal que du coup ça soit ébranlé quand il y a une difficulté. Et Jésus dit que ce qui donne la stabilité, ce qui donne la vie éternelle, ce qui donne cette paix, cette satisfaction, c'est que lui soit au centre de cette vie, de sa vie. C'est ça que Paul dit. C'est ça que Paul expérimente. Peu importe la prison, peu importe la circonstance, peu importe la richesse, la pauvreté, il a appris à être satisfait. Et ce n'est pas juste une lutte mentale pour se dire « Ah non, mais c'est bon, ça n'a pas d'influence sur moi, Non, c'est une conviction profonde que Dieu est au centre de sa vie, qu'il est son seul bien, que Christ est sa vie. Ça paraît aberrant, c'est complètement irrationnel. Et pourtant, il en est l'exemple vivant, enfin mort maintenant, mais vivant à l'époque, que c'était possible. Mes souhaits, ils restent au centre de ma vie. On prend l'exemple de... Moi, j'aime beaucoup passer du temps avec des gens, de discuter, partager, on boit un café, on partage un petit goûter ou un repas ensemble. Et puis, c'est super simple. On se retrouve dans notre appartement, et puis il fait chaud, il fait bon, dehors il fait froid. Et puis, quand quelqu'un vient et dit « Ah, en fait, ça vous dirait qu'on sorte dans la rue, qu'on aille donner du café à des gens comme ça juste voilà, pour montrer notre amour, pour éventuellement parler de Jésus. » Moi, une des réactions qui m'anime des fois, c'est « Oh non, mais j'ai pas envie. Pourquoi tu viens avec une idée comme ça ? On était bien là. On était bien. Et maintenant, tu me fais culpabiliser parce que si je te dis non, eh ben en fait, je vais me sentir mal. Si je te dis non, je vais croire que je suis un mauvais chrétien. » On ne va pas entrer dans ce domaine-là pour analyser tout ça. Mais il y a un problème, là. C'est que je n'aime pas être dérangé de mon confort. Alors oui, bien sûr, ça a de la valeur de partager du temps avec des gens, de s'édifier, de s'encourager, de se faire du bien comme ça. Mais on est tellement vite enclin à se dire que ça suffit. Ah non, mais va évangéliser, toi. Va dans la rue. Moi, je m'occupe d'édifier le corps de Christ. Puis comme ça, après, eux, ils seront formés pour eux aussi aller avec toi à l'extérieur. Mais tellement vite à trouver des excuses comme ça. Elles ne sont pas fausses. Parce qu'il faut des gens comme ça. Il faut des moments comme ça. Mais il faut pouvoir être cohérent, estimer ce qui est bon de faire, être influencé par l'esprit pour savoir ce qui est le meilleur. Et ça, c'est du ressort de chacun. Qu'est-ce qui est au centre quand moi je me sens déstabilisé par la demande de cet ami? Je crois que ça se passe de réponse. Voilà. Un deuxième point c'est le fait de cultiver la confiance. Ouais, volontiers. Et puis pour ça, un exemple qui me touche beaucoup, j'en ai pris un, mais il y en a plein, c'est l'exemple de Joseph. Pour la faire courte, c'est un jeune homme qui fait des rêves bizarres, qui est le préféré de son papa, qui dans ses rêves voit sa famille entière soumise à lui, et du coup ben, attire les foudres particulièrement de ses frères, qui sont au nombre de 11, 10, pardon. Et ses frères, parce qu'ils le détestent, vont jusqu'à le jeter dans un puits, alors qu'il veut venir les aider. Et puis ils le vendent à des marchands d'esclaves. Et puis, pour couronner le tout, eh ben, ils le font passer pour mort. Après ça, ben, Joseph arrive en Égypte, est au service d'un homme qui s'appelle Potiphar, et puis c'est son esclave. Mais Dieu est tellement avec Joseph, et Joseph est tellement bien intentionné, que Potiphar remarque rapidement ses qualités et le fait que Dieu le conduit. Mais ça ne s'arrête pas là. Droit derrière, il est faussement accusé d'une tentative de viol, et il finit de nouveau en prison, pendant quelques années. Mais dans cette prison encore, il gagne les faveurs des gardes, parce que Dieu est avec lui. Et il croupit là pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, heureusement, une personne qu'il a côtoyée en prison se retrouve devant le pharaon, qui a des rêves bizarres aussi, et lui dit qu'il a connu quelqu'un en prison qui savait interpréter les rêves. Et là, Joseph en sort et devient le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, placé par Dieu. Vous aimez regarder des films ? Qui c'est qui est fan de films, là ? Qui c'est qui aime bien regarder un bon film de temps en temps ? Ouais, c'est sympa. Est-ce que vous aussi, comme moi, inconsciemment, vous espérez toujours que ça se finit bien ? Vous savez, le moment, c'est à trois quarts du film, à peu près, il y a toujours cette phase où le héros, en fait, il y a tout qui joue contre lui. Quand il est dans une comédie, bah, c'est son histoire d'amour qui part en vrille, c'est ses amis qui le lâchent, il perd son argent. Puis dans un film un peu plus dur, et ben, dans un film de guerre par exemple, ben, il perd une bataille ou il se fait trahir par quelqu'un. Puis on joue avec nos émotions comme ça. Mais on sait, moi je sais à ce moment-là, qu'il y aura un mieux, que ça va bien finir. Et c'est ça qui m'aide à passer au travers de ça. Sinon je n'y arriverai pas. Moi je vis tellement ces films, ça m'énerverait trop, j'ai envie d'éteindre la télé. Et je sais qu'ils finissent bien. Quoique maintenant, il y a aussi des films où justement ça ne finit pas bien. Et moi, quand je vois ces fins, je suis là, quoi ? Mais vous rigolez, j'ai envie de mettre un procès à la compagnie tellement ça m'énerve. Ça ne va pas, ça m'énerve. J'ai besoin que ça finisse bien. Heureusement qu'avec Joseph, ça finit bien. Heureusement qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais si je ne connaissais pas la fin de l'histoire, comme dans ce film, aux trois quarts, là, puis où je vois où tout va mal, là, quand Joseph se fait vendre à des marchands d'esclaves, ça c'est le pire des films du monde, ça en fait. Tout va bien, il est aimé, il reçoit un beau manteau, il finit esclave. Tout à coup, ah, il est de nouveau, il gagne les faveurs de son patron, de Potiphar, tout va bien, alléluia, c'est magnifique. Il joue avec nos émotions comme jamais. C'est pas normal. Et moi je le supporte bien parce que je connais la fin. Mais si je vivais ce moment où Joseph se fait trahir par ses propres frères, des gens que lui il croyait qu'il l'aimait, il se fait trahir, jeter dans un puits et vendre à des esclaves. C'est quoi comme vie, ça ? Si on ne sait pas comment ça va finir après, c'est la fin du monde, une circonstance comme ça. J'imagine être à sa place. Lui aussi, après, il croit que tout va bien, que Dieu est avec lui parce qu'il est chez Potiphar et que tout se passe bien. Ah ben ouais, peut-être c'est ça le plan de Dieu pour moi. Ah mais je le remercie de m'avoir sauvé. Et droit derrière, encore une fois. Il doit avoir une sacrée foi. et sa confiance, elle a dû être sacrément travaillée pendant toutes ces années. Il a gardé cette confiance. D'un point de vue humain, d'un point de vue personnel, s'il s'était mis lui-même au centre de sa vie, ça aurait été un échec total. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite à un être humain, d'être en prison, d'être trahi par ses frères, d'être ignoré. Mais Dieu avait un plan plus global. Puis nous, on s'arrête au bout où Jésus, ben, il devient second du Pharaon. On peut dire, ah super, c'est magnifique, c'est terminé. Mais non, en fait, parce que derrière, il y a 7 ans de famine où le peuple choisi de Dieu pourrait complètement disparaître. Si Joseph n'avait pas été là, Israël aurait été décimé. Mais nous, on ne le voit pas, ça. Nous, on s'en rend compte pendant les 7 ans de famine où la famille de Joseph, elle vient en Égypte et elle bénéficie du fait que Dieu ait magnifiquement bien conduit les choses, qu'il y ait assez de ressources et qu'en plus, ce soit l'un des leurs qui décide de tout. Mais sans ça, il n'y a pas de suite. Sans ça, c'est la fin. Dieu a un plan global qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, qui, si on est centré sur nous, n'est pas imaginable, n'est pas vivable. C'est pour ça que c'est important de ne pas être au centre de sa propre vie. Parce que comme Rick Warren le dit, comme la Bible nous l'enseigne, notre vie dépasse largement, largement ce qu'on pourrait imaginer. Les enjeux de nos vies sont largement plus grands que ce qu'on peut imaginer. Même ce qu'on peut imaginer là maintenant, c'est encore trop petit par rapport à ce que Dieu considère. Et ça, moi, ça me remplit tellement de joie, ça me remplit tellement de paix. Ça, moi, ça me permet de survoler tous les problèmes. Parce que je m'en fiche de vivre ça. Parce que je sais qu'au bout, Dieu, il fait son œuvre. Et Paul en prison, il en témoigne. Il a pu témoigner devant l'empereur. Il a pu annoncer l'évangile. Et l'Église n'a jamais arrêté de croître. Jamais. Son plus grand ambassadeur était en prison. Et en prison, il arrivait à toucher un nombre incroyable de personnes. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas celui qui dirigeait les opérations. Il n'était pas celui qui était au centre de sa vie. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il ne s'arrête pas. Jamais. Qu'on meure, qu'on vive, le royaume de Dieu ne s'arrête pas. Plus l'Église a grandi, plus les persécutions sont arrivées. Et plus les persécutions sont arrivées, plus les gens se sont convertis. Je n'ai pas de chiffres. Mais il me semble que dans les pays les plus persécutés, avec tous les témoignages qu'on entend de portes ouvertes, de toutes ces organisations qui sont en lien avec ces églises, on a l'impression que ces gens, ils ne sont pas au centre de leur vie. Et de plus en plus de personnes se convertissent, alors même que tout le monde s'oppose à eux. Et ici en Europe, là où on est libre, là où on peut faire ce qu'on veut, là où on pourrait aller dire Dieu sur la place pendant 3 heures d'affilée, ben la croissance, elle est de loin pas égale à ce qui se passe ailleurs. Coïncidence ? Je crois pas. Loin de moi de l'idée de culpabiliser. Peut-être c'est un temps comme ça. Peut-être que Dieu teste la patience. Peut-être que Dieu teste la confiance. Peut-être. Je suis pas Dieu, j'en sais rien. Mais mon job, c'est d'essayer de comprendre. C'est pas de m'arrêter à ce que je vois. C'est pas d'arrêter de faire confiance. Moi, mon job, c'est de continuer à faire confiance à Dieu. C'est de continuer à garder cette confiance encore et encore. Et à surtout pas croire que l'avancement du royaume de Dieu, que l'avancement et la croissance de tous ceux qui m'entourent dépendent de moi. C'est plus grand que moi. C'est tellement soulageant. Il n'y a pas de fardeau sur nos épaules. Il n'y a pas, si ce n'est celui d'annoncer le nom de Jésus. Il n'y a pas de fardeau. Dieu ne demande pas de convertir la planète entière. Dieu ne demande pas que tous les amis qui nous entourent, tous les gens qui nous entourent croient en Dieu. Bien sûr, c'est son cœur, parce qu'il les aime. Mais ce n'est pas par nos forces. Ce n'est pas nous qui faisons ça. Ce qui nous est demandé, c'est de faire confiance. Et pour faire ça, pour moi, il y a un élément essentiel qui est nécessaire. C'est celui de cultiver sa relation à Dieu. Volontiers le troisième point. Parce que c'est la base de tout. Ma confiance, elle ne peut pas exister si je ne comprends pas qui est Dieu. Si je ne connais pas Dieu, si je ne sais pas ce qu'il fait, si je ne sais pas qui il est, si je ne sais pas qu'il m'a sauvé, je ne peux pas avoir confiance. C'est logique. Ça veut dire que cette base, c'est de cultiver cette relation à Dieu. C'est de comprendre ce que ça veut dire, que Jésus est mort sur cette croix pour le pardon de nos péchés. Déjà, pourquoi on est pécheur ? Mort pour nos péchés, ressuscité après 3 jours pour nous laver complètement et nous donner accès à la présence de Dieu. Pourquoi on a besoin de Dieu ? Pourquoi on ne peut pas être le centre de nos vies et puis vivre et puis mourir et puis basta ? Pourquoi ? De nouveau, on ne va pas adresser cette question maintenant. Bah, c'est une question de vie, hein ? Mais pour moi, elle est essentielle au développement du royaume de Dieu, au développement de cette confiance et puis au développement de cette mort à soi-même et ce décentrage de nos vies. Et quand je pense à relation à Dieu, pour moi, la personne dans la Bible qui l'incarne le mieux, c'est le roi David. Ces psaumes, je ne sais pas comment vous les percevez, comment vous les vivez, mais moi, ils me font tellement de bien. Ils m'ont sorti de tellement de fausses réflexions, de moments noirs, parce qu'il sait exactement ce que je vis. C'est fou. On dirait que c'est moi. Bah, la bonne nouvelle, c'est que ça nous concerne tous, parce que ce n'est pas juste David, ce n'est pas juste moi, c'est l'être humain. Et ça, moi, encore une fois, ça me fait tellement de bien. Parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas les seuls à vivre nos problèmes. On n'est pas les seuls à ressentir les choses comme on les ressent. Pourtant, on a peur de les communiquer. C'est un scandale de dire qu'on ne ressent pas Dieu. Quand on est devant, il faut dire qu'on ressent Dieu. Il faut dire qu'on le vit. Il faut dire qu'il change nos vies. Waouh, vous savez ce que Jésus a fait dans ma vie ? C'est tellement bon, je suis tellement reconnaissant. Moi, ça m'est arrivé de le dire alors que je ne le pensais pas. C'est triste quand même, non ? Que je me sente obligé de le dire. Et ce n'est même pas parce que les autres me l'imposent, ce n'est même pas parce que les autres me jugent. Si je le dis, c'est moi qui m'impose ce jugement. C'est moi qui m'impose de dire ça pour paraître bien aux yeux des gens. Parce qu'encore une fois, je veux être le centre de ma vie. Je veux être reconnu pour ce que je suis. Et encore une fois, ce n'est pas juste. C'est bien de vouloir être reconnu, mais cette reconnaissance, cette valeur, on l'a. Je n'ai pas besoin de la chercher. Je n'ai pas besoin de la construire. Elle existe. Ce que Jésus a fait sur cette croix, c'est exactement ça. C'est dire à chaque être humain, passé, présent, avenir, tu as de la valeur. Je t'aime. Rien. Tu peux rien faire. Arrête de t'épuiser. C'est comme un enfant, je sais pas, qui essaie de s'en prendre à un adulte. Tu mets la main sur sa tête, tu le pousses à 1 mètre, il peut faire tout ce qu'il veut. Ça marchera jamais. Il n'arrivera jamais à nous atteindre. Ça vous fait marrer. Je comprends. Il peut pas. C'est impossible, c'est inutile, c'est un gaspillage d'énergie de chercher à trouver sa valeur dans le travail, dans l'argent, dans l'assurance d'être quelqu'un, dans le fait d'être un pasteur, de prêcher, d'être l'ancien d'une église, d'être président ou présidente, d'être à la tête d'une grosse organisation. C'est bien, c'est bien. Le problème, c'est que c'est biaisé. Parce qu'il y a certainement une partie de l'esprit qui dit « Ouais, Dieu t'appelle à ça. Dieu aimerait être utilisé là. Mais le problème, c'est qu'on le mixe avec « Ah, en fait, je dois être là. Dieu a besoin de moi. » Non, non. Dieu n'a pas besoin de nous, non. Tous les chrétiens de la terre pourraient mourir maintenant que le royaume de Dieu continuerait à avancer. Parce que Dieu est tout-puissant. Il fait tout ce qu'il veut. Sa création suffit à convaincre le monde entier qu'il existe. Et rien ni personne ne peut égaler cette splendeur-là, cette gloire-là. Personne. Et là où nous, on rentre pleinement dans le fait de ne pas être le centre de nos vies, c'est justement de reconnaître ça. Et pour revenir à David, entre son onction par le roi, par Samuel, pardon, par le prophète, qui lui dit « Tu seras roi sur Israël », et le moment où il devient roi, il y a plusieurs années. Je ne sais pas exactement combien, mais il y a plusieurs années. Comment vous réagissez-vous quand Dieu vous fait une promesse et puis qu'elle ne s'accomplit pas? Allez, dans les mois qui viennent. Moi, déjà au bout de 3 jours, je deviens fou. Imaginez quelques années. Et ce n'est pas juste quelques années où il a pu continuer à être ce qu'il était, un berger, sans souci. Non. Il a été appelé auprès du roi Saül. Ah, ça, ça a dû déjà lui faire un petit déclic. Ah, super, je me rapproche du roi. Ça veut dire que mon couronnement s'approche. Ben non. Ah, super, je suis super ami avec le fils du roi. Ça doit me rapprocher de mon couronnement, ça. Ben non. Ah, super, Dieu, il me rend vainqueur dans toutes les batailles où je vais. Je suis même plus fort que Saül. Peut-être c'est le peuple qui va demander à ce que je sois roi à la place de Saül et que Dieu va approuver ça. Ben non. Et ce n'est pas en une semaine, ça. C'est sur des mois, sur des années. Puis ça s'empire après. Cette proximité qu'il a avec Saül, elle se dégrade. Et tout à coup, il veut sa mort. Et pendant des années, il est obligé de fuir, d'être entouré de mauvaises personnes qui lui sont fidèles, mais ce n'est quand même pas des gens de sang royal qui pourraient l'aider à accéder au trône. Non, il prend ce qu'il a autour de lui. Moi, je ne sais pas ce que je fais. Hein. Je ne comprendrai plus rien. Et David, à chaque fois qu'il en a l'occasion, il garde cette confiance en Dieu. Quand il a la possibilité de tuer Saül, il l'a plusieurs fois, il refuse de le faire. Il n'est pas le centre de sa vie. Il n'est pas celui qui décide de la vie ou de la mort de quelqu'un qui l'empêche d'accéder là où il veut aller, là où on lui a promis d'aller. Même avec la promesse de Dieu, il s'est rendu compte que ce n'était pas à lui de l'influencer, cette promesse. C'était à Dieu de l'accomplir, et seulement à Dieu. Ce n'est pas à nous de précéder Dieu et de lui dire « il faut que tu fasses ça comme ça ». Non, Dieu, il a déjà tout prévu. Il a déjà son plan, il sait exactement comment ça doit se dérouler. Allons pas à l'encontre de Dieu. Jonas aussi, il croyait que c'était possible. Le prophète Jonas. Il savait mieux que Dieu ce qui était bon pour les habitants de la ville de Ninive. Il a essayé d'agir, au lieu d'annoncer l'évangile, au lieu d'annoncer leur demander de se repentir, ce que Dieu lui avait demandé de faire, il est parti dans l'autre sens. Ben, il a fini au fond de l'océan, dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours, pour enfin se repentir. Qu'est-ce qui se serait passé avec David s'il avait porté la main sur Saül? On ne saura jamais. Mais il a fait ce qui était juste. Il a laissé Dieu être le centre de sa vie. Il a laissé Dieu conduire chacun des pas qu'il faisait. Et je pense qu'il en était tellement conscient. Pourquoi ? Parce que sa relation avec Dieu était tellement forte. Je crois que c'est la seule personne dans la Bible qui a été appelée un homme selon le cœur de Dieu. Avec une proximité, une intimité, comme jamais quelqu'un l'avait vécu. Et pour illustrer ça, j'aimerais qu'on lise le psaume 13 là, où il est dans la difficulté, et il cultive cette relation à Dieu. Au chef de cœur, psaume de David, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouirent en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Après s'être confié à Dieu de tous ses soucis, il revient à l'essentiel. Et là, il y a une forme de discipline spirituelle qui est ultra importante, selon moi. On a chanté avant ce chant « Bénis Dieu, ô mon âme ». On n'est pas en train de dire « S'il te plaît, mon âme, est-ce que tu serais d'accord de bénir Dieu ?» Non, c'est « Bénis Dieu, reconnais-le, loue l'Éternel, bénis l'Éternel. » On ne demande pas à l'âme de faire ce qu'elle veut. On discipline notre esprit, notre corps, notre âme à rendre gloire à Dieu. Parce qu'on sait que c'est ce qui est juste de faire et parce qu'on sait que c'est ce qui est bien de faire. Parce que mettre Dieu au centre, c'est aller au-delà de ses difficultés, au-delà de ses craintes, au-delà de ses doutes que David exprime là. Et de laisser Dieu être. « Oui, Seigneur, j'ai peur que mon ennemi me batte. J'ai peur d'être abandonné par toi. Mais je sais que tu es bon. Je sais qu'à toi soit l'honneur et la gloire. Tu me fais du bien. Je le vois peut-être pas, je le vis peut-être pas, mais je sais que c'est vrai. » Et ce qui permet de dire ça, c'est de cultiver cette relation à Dieu. Vous voulez un bon moyen de juger de votre dépendance à Dieu? Regardez où en est cette relation. Combien de fois vous ouvrez votre Bible? Combien de fois vous passez du temps dans la prière? Et là, moi, je cite ces deux exemples parce que je suis humain et parce que je suis limité. Et ce n'est certainement pas les deux seuls. Mais il faut qu'on regarde à notre intimité avec Dieu pour savoir où on en est par rapport à la dépendance à Dieu. Moi, je veux souvent voir des choses changer. Je veux souvent changer l'Église. Je veux souvent que toute la terre entière se convertisse. Je veux être président parce que je veux changer la façon de voir dans ce pays, de la façon dont on considère les gens, la façon dont on gère ça, ça et ça. Et puis après, en fait, je ne suis même pas sûr que c'est ce à quoi je suis appelé, premièrement. Et puis de deux, quand je regarde où en est mon intimité avec Dieu, à quel point je suis conscient de qui il est en moi, je me dis que ce n'est pas possible. Parce que mes réactions, elles sont empreintes de rage, de haine, d'orgueil. Et ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas. Je crois que tous ceux qui ont essayé peuvent en témoigner. Alors cultivons cette intimité avec Dieu, cultivons cette relation à Dieu. C'est ça l'essentiel. Et pour conclure, s'il y a un terme, une chose que j'aimerais que vous reteniez, ce soit cette notion de cultiver. Ce n'est pas toujours facile de mourir à soi-même, ce n'est pas toujours facile d'avoir confiance en Dieu, ce n'est pas toujours facile de passer du temps avec Dieu. Mais si on s'en tient à nos ressentis, à ce qu'on a envie de faire, on n'avance pas. Si ceux qui ont changé le monde aujourd'hui, qui étaient là, qui ont existé par le passé, qui ont changé les choses de façon signifiante, c'était dit à la première occasion, à la première difficulté, j'irais bien me boire un petit thé ou faire un tour à cheval plutôt que de réfléchir à cette situation et puis à essayer de trouver une solution à l'abolition de l'esclavage. Cette personne-là n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Il en va de même pour nous. Si on privilégie nos envies, nos désirs, bien qu'ils ne soient pas mauvais, plus que le fait de cultiver notre relation avec Dieu, de cultiver cette bonne manière de penser Ah, mais je suis sans valeur. Non, mais je ne sers à rien. Je ne vaux rien. Non, 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 non. La Bible, elle dit que je suis plein de valeur. Le sacrifice de Jésus me rappelle qu'en fait, je n'ai rien besoin d'acquérir. J'ai tout. Magnifique. Sachant ça, je peux faire ça. Sachant ça, je peux être plus aimant avec les gens qui m'entourent. Sachant ça, je peux encourager. Sachant ça, je n'ai pas besoin d'être aimé quand quelqu'un m'insulte et de lui rendre l'appareil. Je peux lui dire, mais qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? Parce que moi, je sais ce que je vaux. Tu peux me traiter d'imbécile comme tu veux. En fait, je sais que je vaux la vie de quelqu'un. Je vaux la vie de Dieu. Et toi aussi, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que tu ne comprends pas, tu me parles comme ça. Purée, mais ça renverse le monde, des gens comme ça. Vous imaginez? Cultiver. Cultiver, pour moi, c'est cette notion la plus importante. Ça demande la discipline, ça demande la volonté. Tout en ayant conscience du fait que ce n'est pas nous qui provoquons le changement, ce n'est pas nous qui provoquons la transformation, c'est Dieu qui le fait. Dieu est Dieu seul. Et moi, j'ai souvent fait cette erreur-là. Vous pouvez demander à ma femme. Souvent, par ma volonté, je change les choses. Je dis, OK. Alors là, il faut faire des économies d'énergie, d'électricité, pour pas que la facture soit trop élevée, parce que nous, on a du chauffage électrique. Donc, je ne vous dis pas la facture de la remontée d'énergie à la fin du trimestre. OK, il faut changer. D'accord. Alors, à chaque fois que j'ai la possibilité, j'éteins le chauffage. Clac, 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 clac. Ouais, mais chérie, j'ai froid. Non, 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 il faut faire des économies, là. Et je veux changer par ma volonté. Alors, là, c'est un exemple bête. Peut-être que là, c'est bien, c'est bénéfique. Mais à quel prix? À quel prix? Ma volonté, elle est aussi à la recherche. C'est aussi un moyen d'acquérir de la valeur. Et je n'en ai pas besoin. J'aimerais prendre un temps pour prier maintenant. Et pas vous demander de lever la main, de vous mettre debout ou je ne sais pas quoi, mais symboliquement, dans votre cœur, ceux qui sont touchés par ça, qui se disent « mais non, mais il faut que ça change ». Et puis il faut que ça change, mais ça ne veut pas dire « ok, je me mets en action pour changer ». Ça veut dire « je me mets à genoux devant Dieu ». Et j'implore son action, j'implore son œuvre à chaque fois que j'en ai l'occasion, à chaque fois que j'en ai la possibilité. Parce que humainement, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est bon ça. On n'a pas besoin d'être capable. Dieu ne nous demande pas d'être capable. Dieu nous demande de nous confier en lui. Dieu nous demande de comprendre l'amour qu'il a pour nous. Et ça, naturellement, ça produit du changement. Ça répand son amour dans notre cœur. Et puis ce qui est répandu dans notre cœur, ça se ressent dans nos paroles, dans nos mimiques, dans notre langage non verbal, dans nos actions, dans ce qu'on fait vis-à-vis des autres. Sans même qu'on le veuille, tellement ça émane de nous. Et c'est ça qu'on veut. Je crois que c'est comme ça qu'on changera ce monde. C'est comme ça qu'on permettra à Dieu d'être glorifié au travers de nous. On a été fait par lui et pour lui. Il ne s'agit pas de nous. Nous, ça a été réglé à la croix. Notre valeur est pleine, remplie à 100%. Ça, c'est terminé. On peut juste le vivre et puis laisser Dieu agir. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aimerais te prier. Tu connais, tu sais comment on est. Tu sais que nos intentions, elles sont souvent bonnes, mais qu'on lutte avec la chair, qu'on lutte avec cette nature humaine qui nous pousse à agir, à penser et à faire des choses qu'on voudrait peut-être pas faire. Et tu vois, ces prises de conscience qu'on a régulièrement, quand on écoute un message, quand on vit une situation particulière, quand on partage avec quelqu'un, quand on est mis face à un défi. Seigneur, merci parce que tu nous fais grâce et que tu ne nous en veux pas. Merci parce qu'on peut être pardonné. J'aimerais te demander, Seigneur, que toutes les personnes qu'on est ici ce matin, toutes celles qui le souhaitent, on puisse s'engager à cultiver cette relation avec toi, à demeurer en toi, à garder tes commandements. Chaque fois qu'on en a l'occasion, chaque fois qu'on en a la possibilité, que tu puisses, Saint-Esprit, nous montrer que nous ne sommes pas le centre de nos vies, à juste titre, parce que tu nous as comblés de ton amour. Seigneur, s'il te plaît, permets que ce qui puisse être retenu de ce message se soit ancré par toi dans le cœur de chacun. Peu importe si on a tout retenu, peu importe si on retient ces trois points, mais que tu nous permettes de retenir ce qui a besoin d'être transformé. Merci Seigneur parce que tu as tout donné. Merci Seigneur parce que ton plan dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et dans ce plan, tout concourt à notre bien. Permets-nous de te connaître plus. Permets-nous d'en savoir plus sur toi, d'être délivré par toi, transformé par toi, restauré par toi. C'est toi et toi seul qui transforme, c'est toi et toi seul qui restaure. Que cette pensée-là nous remplisse de paix et nous permette d'être tes témoins et que ton royaume se développe et soit annoncé. Ouais, sois béni, Seigneur. Amen.